Le journal Belinda Bosumba.
Attaque contre les paroisses catholiques dans plusieurs coins du pays. La MONUSCO, la CENCO et la Nonciature apostolique s'inquiètent et demandent une réaction urgente de la part du gouvernement congolais. Province du Haut-Katanga, des recrues FARDC accusées de tracasseries, voire des pillages des champs de la population Likasi. Mais un responsable de ces recrues parle des cas isolés des éléments incontrôlés. Le prix du litre du carburant à la pompe reste le même jusqu'à nouvel ordre. C'est le compromis trouvé par les opérateurs pétroliers et le gouvernement à l'issue de leur rencontre cette semaine. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La MONUSCO, la CENCO et la Nonciature apostolique s'inquiètent vivement des récentes attaques lancées contre des paroisses et autres installations catholiques dans plusieurs parties du pays. Ces attaques ont été particulièrement violentes dans les provinces de Kinshasa, Haut-Katanga, Kasaï central et Kasaï oriental, renseignent les trois institutions dans un communiqué conjoint rendu public hier dans la soirée. Les trois institutions demandent une réaction urgente de la part des acteurs politiques congolais. Noëlla Luzitu nous donne l'économie de ce communiqué.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou, l'archevêque de Kisangani et président de la CENCO, Monseigneur Marcel Outembi, ainsi que le nonce apostolique en RDC, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, disent condamner fermement ces actes qui sont du reste punissables en droit pénal congolais. Ils rappellent que les lieux de culte appartiennent à tous et en tant que tels sont censés être apolitiques. Les trois responsables ajoutent que les églises sont aussi des lieux de recueillement pour les populations et doivent être respectées et protégées. En s'y attaquant, leurs auteurs et ou commanditaires portent atteinte à un bien commun de tous les Congolais. La MONUSCO, la CENCO et la Nonciature apostolique appellent par conséquent à la cessation immédiate de ces actes déplorables et demandent aux acteurs politiques de les condamner tout aussi fermement afin de déjouer toute tentative de manipulation visant à fragiliser la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016.
Pendant ce temps, ici à Kinshasa, nous apprenons le saccage et pillage d'une école tenue par des religieuses hier jeudi matin. Il s'agit de la Providence, une école située au quartier Kingabwa Yaoundé dans la commune de Limété. Selon les témoins, un groupe d'habitants, en majorité des jeunes, ont pillé des bancs et quelques documents. La police est intervenue avec des gaz lacrymogènes pour les disperser. Tout serait parti d'une nouvelle qui a circulé très tôt le matin, faisant état du décès d'un élève qui aurait été frappé la veille par un enseignant. Le député national Léon Moulumba, élu de cette circonscription, qui est descendu à l'école Providence pour s'enquérir de la situation, affirme n'y avoir trouvé aucun responsable pouvant donner des informations sur l'état de santé de cet élève. L'élu de la ville de Kinshasa est joint par Suzanne Zobodra.
En tout cas, il y a personne du corps éducatif de l'école, il n'y a personne qui est sur place, donc j'ai pu accueillir quelques informations auprès des gens du quartier. Moi-même, quand j'étais encore sur place, on a récupéré une quinzaine de bancs. Bon, il faut dire qu'il y a quand même une centaine de bancs qui sont partis. Ça, c'est déplorable pour le quartier qui est déjà assez pauvre et quand des événements comme ça arrivent, vraiment, c'est des choses à ne pas souhaiter, quoi. Quand je suis arrivé sur place, j'ai fait un appel aux forces de l'ordre. Oui, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les jeunes qui ne voulaient pas obéir aux mots d'ordre de la police. Vous savez, on est dans un quartier dépourvu de tout. Et quand vous avez 90% des jeunes qui ne sont ni scolarisés et sans travail, vous savez, chaque événement de la sorte s'appelle... à la malhonnêteté, tous ils veulent se retrouver un peu, ils veulent voler un bien, ils volent pour se retrouver un peu, vous savez, c'est la pauvreté qui occasionne tout ça.
Rendons-nous au Congo central où le déploiement des kits électoraux s'est poursuivi hier dans la ville de Matadi et le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a procédé au lancement de l'opération d'enrôlement dans cette province. Cette province a reçu donc 44 tonnes de matériel électoraux. Guy Roger Nyampala.
Cette activité a eu lieu devant près de 200 personnes. Outre l'opération d'installation des kits électoraux, il a été également procédé à la simulation d'enrôlement et c'est le gouverneur du Congo central qui a reçu en premier la carte de lecteur ainsi que certains élus nationaux et provinciaux. Cette étape a été précédée par le mot de la secrétaire exécutive de la CENI, au Congo central. Cette dernière a remercié la hiérarchie de la CENI pour cette opération ainsi que les autorités provinciales du Congo central. C'est effectivement le numéro 1 de la province du Congo central qui a pris la parole pour expliquer la nécessité dans cette province. Enfin, c'est Norbert Basengezi qui a pris la parole en dernier ressort pour s'étendre sur les assignations de 2 millions d'électeurs pour toute la province du Congo central. Deux élus, un provincial et un autre national, avaient pris également la parole pour appeler à l'enrôlement des électeurs. La délégation de la CENI a quitté Matadi ce vendredi pour aller vers Tchiela, Kinzamboité, jusque dans les territoires de Mwanda pour sensibiliser et installer effectivement ces kits électoraux. Matadi, Guy Rejeunyampala, Radio Okapi.
Justice à faire Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido à la haie. La chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale annonce qu'elle rendra la décision le 22 mars prochain. Ça sera lors d'une audience publique à la haie. La chambre ordonne aux personnes condamnées d'être présentes à l'audience. Rappelons que l'ancien vice-président de la RDC et ses co-accusés sont poursuivis pour des atteintes présumées à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Direction la province du Haut-Katanga, les habitants de Likasi dénoncent le pillage de leurs champs par des recrues fardessées du centre de formation militaire de Moura. D'après eux, ces recrues rançonnent, volent et extorquent dans les différents quartiers de la ville. Ces accusations sont confirmées par la société civile de Likasi. Récit des faits avec Madeleine Waila.
Selon les témoignages recueillis à Likasi, il y a 2 semaines, ces militaires ont dévasté des champs de maïs dans la commune. Environ une superficie de 5 hectares de champs a été pillée. C'est principalement le champ qui se trouve le long de la rivière Panda. En dehors de cette situation, les nouvelles recrues de FARDC sont accusées de tracasserie.
C'est chaque jour que ces recrues-là sillonnent la ville pour demander qui a mangé, qui a un peu d'argent pour se faire soigner. Nous connaissons ce cas à répétition il y a 2 semaines à peu près. Ce maïs qu'on a cultivé nous est volé par des recrues que le gouvernement est censé entretenir.
Cette situation est confirmée par la société civile de Likasi dans une rencontre d'échange avec une équipe de la MONUSCO de Lubumbashi qui s'est rendue dans la ville pour évaluer la situation sécuritaire. La question était soulevée lors de ces entretiens. Au regard de cette situation, la société civile de Likasi formule des recommandations à l'endroit des autorités militaires et civiles de Likasi, notamment l'affectation au plus tôt possible des jeunes militaires du centre de Moura. Contacté à ce sujet, le commandant adjoint du génie civil FARDC à Likasi, une structure militaire qui coordonne toutes les activités de l'armée dans cette ville, reconnaît la sortie du centre de quelques éléments incontrôlés. Mais il ne confirme pas des cas de tracasserie que dénonce la population de Likasi. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Bazouélé, 11 éléphants seraient tués au cours des 2 dernières semaines par des éléments de la LRA et des éleveurs Mbororo dans la réserve de chasse de Bili Ouéré dans la localité de Digba en territoire d'Ango. C'est le conservateur principal de ce domaine de chasse qui le dénonce. Victor Ipaluku précise que la viande d'éléphants et les ivoires sont vendus au marché de Zemio en République centrafricaine. Il l'a dit à Jacques Moukonkole.
Pratiquement ici, il y a beaucoup de mouvements migratoires des éleveurs Mbororo qui sont également aussi armés. Il y a aussi les groupes armés LRA qui circulent dans la zone. Et il y a 2 semaines que nous avons enregistré l'abattage de 11 éléphants dans le secteur de Digba.
Vous pensez que ce sont les Mbororo et la LRA qui seraient responsables de cet abattage?
Tout à fait, effectivement. C'est eux qui sont responsables de cet abattage parce que cela a été aussi confirmé par le chef coutumier de la chefferie Sassa qui, lorsqu'il fait les itinérances dans son entité, il voit toujours le mouvement de ces gens avec leur bétail et des armes. Donc, ils sont vraiment dans la zone et c'est eux qui commettent ces activités-là. Il fait également la vente des ivoires entre la RDC et la RCA, donc c'est catastrophique.
Et pour combattre ce braconnage, Victor Ipaluku plaide pour l'implication de tous les services de sécurité en vue de la sécurisation du parc. Dans la province du Kwilu, l'hôpital général de référence de Mokala Mission, secteur de Mateko, demeure dans le noir. Les malades n'ont plus accès à l'eau potable faute d'électricité dans la mission où se trouve cet unique hôpital du coin. Les malades se démènent donc pour trouver de l'eau à la fontaine qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Fabien Kambinzi nous en parle.
Ces manques de l'énergie à l'hôpital général de référence de Mokala seraient à la base du calvaire de malades internés dans cette institution sanitaire située à 178 km à l'est de Kikwit et à 220 km d'Idiofa Cité. Gérée par Bedeom Idiofa et malgré la présence des panneaux solaires et des groupes électrogènes, cet hôpital manque même de fils électriques afin de permettre l'installation des lignes électriques dans différents pavillons de l'hôpital, ce qui pousse plusieurs habitants à croire tout simplement que les dirigeants de cet hôpital sont vraiment animés de mauvaise foi. Ce qui est plus regrettable est que les accouchements et interventions chirurgicales qui se passent la nuit se font à l'aide des lampes torches à la main, précisent certains habitants de la mission. Au niveau de la fontaine, ces malades mettent près de 4 heures du temps pour puiser de l'eau. Des informations confirmées par plusieurs sources concordantes, notamment les tirées de la paroisse de la mission catholique de Mokala. Du côté des responsables de l'hôpital, ces derniers sont restés injoignables. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
À noter que nous n'avons pas encore la réaction des dirigeants de cet hôpital accusés de mauvaise foi. Je vous le disais en titre, le prix du carburant reste pour l'instant inchangé à la pompe, mais on apprend qu'il pourrait augmenter de 5%. C'est le compromis trouvé par les opérateurs pétroliers et le gouvernement. Entre-temps, le gouvernement a instruit la BCC, Banque Centrale du Congo, de mettre à la disposition des pétroliers suffisamment des devises à un taux préférentiel pour leur faciliter le réapprovisionnement en carburant. Emery Bopé, vice-président du groupe des sociétés pétrolières privées, est interrogé par Nadine Foulard.
Jusqu'à la preuve du contraire, la structure des prix reste encore inchangée. Ça veut dire que les prix à la pompe sont encore d'application. Et puis le gouvernement a pesé de tout son poids pour résoudre le problème des importations de la profession pétrolière. Et ça veut dire qu'en ce moment, on a mis à la disposition des importateurs suffisamment de devises pour pouvoir faire face à notre circuit de réapprovisionnement.
Donc le prix reste inchangé, mais il semblerait que, qu'il y aurait une hausse de moins de 5%.
Il n'y a pas de problème, ça va venir, madame. S'il y aura un document, je crois que entre ce que les gens disent et la réalité c'est lorsque le ministre de l'économie, le ministre d'État à l'économie va signer. C'est à ce moment-là que moi je peux dire que oui.
Est-ce que les pétroliers sont satisfaits de ces compromis?
Dire qu'on est satisfait, moi je dirais que pas totalement. Mais ça permet quand même d'alléger ce qu'on avait toujours comme problème. Au moins, on peut être rassuré et réapprovisionné.
Et sachez que selon le site de la Primature, cette légère hausse se justifie par la prise en compte des trois paramètres principaux qui interviennent dans la structure du prix des produits pétroliers, à savoir le prix moyen frontière, le taux d'échange ainsi que le volume vendu. Il reste à présent la publication des prix officiels selon les différentes zones géographiques, indique la même source. À Mbujimayi, la route nationale numéro 1 menacée de rupture à plusieurs endroits. Le point le plus chaud pour l'instant est situé au quartier Misesa dans la commune de Dibindi, à l'endroit appelé Chamba, à quelques encablures du pont Lubilangi. Un ancien gros ravin a été réveillé par les dernières pluies abondantes qui arrosent la ville de Mbujimayi. Chris Mokandmatande, reportage.
Le ravin Chamba progresse rapidement, tendant à couper la route Mbujimayi Mwenedi. Dans les environs du petit marché Misesa. À ce jour, l'on estime la bretelle du chaussée restante environ 2 mètres de large. C'est avec grand risque que les véhicules peuvent circuler dessus. Le vice-gouverneur de province a visité l'endroit mardi. Le constat impose l'obligation d'y amorcer sans délai des grands travaux, faute de quoi c'est l'effondrement de cette partie de la route nationale et l'interruption pour longtemps du trafic sur cet axe capital pour la ville de Mbujimayi. Le vice-gouverneur Jean-Pierre Mutanda croit que pour vaincre la furie des ravins, l'intervention du gouvernement central est vivement requise. L'urgence s'impose car tout indique que d'autres pluies vont sûrement s'abattre pour compliquer davantage la situation, indique-t-il. Rappelons que le bilan de dernière pluie se résume en une catastrophe pour les habitants de certains quartiers. À la Snelle, dans la commune de Dibindi par exemple, ce sont plus de 20 maisons qui se sont écroulées. Les occupants privés d'abri en appellent à l'intervention du pouvoir public. Chris Moukan,